Luce Desaulniers, vous êtes tout d'abord québécoise, vous êtes anthropologue et dans l'anthropologie, il y a quelque chose qui est un peu votre spécialité, entre guillemets, c'est la mort. Est-ce que la mort ne nous rend pas plus présents à la vie?
Oui, tout à fait. Dans la mort et dans le temps, il y a un terme qui est absolument important, c'est la volonté absolue de contrôle. On veut contrôler la mort, on veut contrôler le temps. Donc, on va planifier, on va découper en horaires. Et quand les choses n'arrivent pas comme on les avait prévues, parce que l'imprévu, c'est la beauté, c'est la vie, bien, on est déçu, on est fâché, etc. Et tranquillement, on se forge une forme de rigidité. À force d'être fixé sur quelque chose qu'on veut absolument contrôler, on devient dangereux pour nous-mêmes et on devient d'une certaine façon des morts-vivants parce qu'on veut avoir une prise sur tout, parce que ça nous donne l'impression peut-être aussi d'être des dieux. Et être des dieux, ben écoutez, c'est quand même un fantasme qu'on retrouve depuis le début de l'humanité.
Si j'ai bien compris, Luce Desaulniers, il y a dans notre rapport à la mort aussi, s'il est bien vécu, un rapport à la créativité.
Oui, tout à fait. Parce que être conscient, encore une fois, c'est comme une petite plume qui nous passe au-dessus de l'oreille, la conscience de la mort. Ce n'est pas nécessairement un grand traumatisme. Dans notre culture, nous sommes très axés sur les grands traumatismes, parce que ça fait l'affaire de la machinerie émotionnelle des médias. Mais la conscience de la mort, elle arrive doucement, elle arrive en secret, de façon très discrète. Et ça contribue au moteur créatif. Et quand on dit créatif, c'est à la fois créer un style de vie qui soit bon pour les nôtres, créer des œuvres, qu'elles soient techniques, qu'elles soient artistiques, c'est faire avancer les choses. Mais n'oublions jamais que créer, très souvent, c'est faire du neuf, j'allais dire avec du vieux ou avec de l'ancien. Et là aussi, il y a une prétention actuelle qui est pour moi lié à quelque chose qui est une forme d'inculture dans le sens de ignare, c'est qu'il y a une prétention à croire que l'on réinvente tout et absolument tout parce qu'on a en main des moyens technologiques de communication qui font en sorte qu'il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Mais la question qu'on peut se poser actuellement, est-ce que ça change l'âme humaine pour autant? Et donc, la créativité profonde, elle est nourrie du sens de la mort, mais elle n'est pas non plus illimitée.
Elle n'est pas illimitée, elle n'est pas immortelle.
Non.
Je sais que vous faites la différence entre immortel et amortel.
Pour le dire le plus simplement possible, amortel, c'est le fantasme de non-mort. Toutes les sociétés ont nourri ce fantasme-là. Je ne mourrai jamais, je vivrai éternellement. Hein? C'est un A qui est privatif. L'immortalité, c'est comment je fais ou comment fait-on pour demeurer vivant, les civilisations entre autres, par-delà la mort qui de toute façon nous abat. Qu'est-ce qu'on fait de mieux du vivant pour s'immortaliser? Robert J. Lifton avait trouvé plusieurs formes d'immortalité. La première forme d'immortalité, c'est la procréation. Évidemment, quand les gens font des bébés, ils ne se disent pas « ça y est, je veux être immortel, je vais avoir une progéniture ». Mais c'est profondément ancré dans le sens de « qu'est-ce qui va dépasser ma propre existence ?» C'est justement la création, c'est la puissance du travail que l'on fait les uns avec les autres pour rendre le monde meilleur. C'est le domaine de la philosophie, c'est le domaine de toutes les croyances. Être immortel, dans le fond, c'est faire vivre la vie de l'esprit. Comment l'esprit peut faire en sorte de mieux comprendre ce qu'on vit, les mystères dans lesquels on vit, les énigmes, mais également les modalités atroce de torture que l'être humain sait se faire actuellement, particulièrement aussi. Et donc, c'est une forme d'immortalité que de penser les choses plus loin que sa propre existence pour faire en sorte que le monde soit mieux compris dans ses nuances et qu'on l'on puisse agir en fonction de ce que l'on comprend. Alors que très souvent, on agit en fonction du réflexe. C'est action-réaction et tout nous pousse à faire ça. Donc, il y a quelque chose qui est percuté, qui est oublié, c'est justement ce temps-là de réflexion, de déposition de quelque chose qui peut nous troubler et de prendre le temps de le dire, mais aussi d'élaborer, de chercher à travers les archives du monde comment tel problème qui a certaines racines communes avec les nôtres a pu être évalué et a pu être en partie résolu. Et c'est pour ça que je dirais à tout le monde, allez faire un grand, grand stage à Rome. pas un stage de touriste à la va-vite, mais un stage, vous allez voir que ça va vous replacer le pivot dans votre rapport au monde et aller en Patagonie aussi, parce que là, vous allez vous rendre compte de l'histoire de la Terre comme telle, de l'humanité. Et ces deux volets-là sont absolument indispensables. On ne peut pas vivre sans l'air, mais on ne peut pas vivre sans la culture.
Une dernière question, Luce Desaunier. Vous avez certainement dû vivre dans votre vie des deuils. Est-ce qu'on est plus armé quand on est professeur d'anthropologie dont la spécialité est la mort?
Je ne suis pas plus armée, mais la réflexion m'a aidée. Je ne suis pas plus armée dans le sens que la peine abrupte, l'incompréhension parfois, cette espèce de déréliction, de sentiment d'être perdu, c'est quelque chose que je vis. Ça ne nous empêche pas de vivre intensément la profondeur et la qualité du sentiment. En revanche, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de prendre distance. Tout savoir permet de prendre distance, c'est-à-dire d'être capable de se dégager un petit peu, pas de ne plus avoir de peine, mais de savoir nommer les sentiments ambivalents, complexes qu'on est en train de rencontrer, mais aussi de les nommer pour les autres, d'aider les autres à les nommer. Et l'enjeu du deuil, c'est de trouver une bonne distance en regard de ce qu'on a perdu. Et ce que l'on a perdu, comme je vous le disais, nous habite d'abord dans le manque cruel. Mais petit à petit, il va nous habiter dans le sens qu'on va prendre de ces éléments-là et les faire nôtres et faire en sorte que cette distance-là, dans le fond, va faire en sorte qu'on va porter l'autre en soi, s'il s'agit de parents comme de notre mère, par exemple, comme elle nous a portés, mais on va porter le deuil en soi, dans sa besace, et puis ça ne sera pas quelque chose de lourd. Le deuil, c'est d'apprendre à prendre distance, et c'est pour ça, en passant, que je suggère toujours que les gens en deuil puissent établir une distance physique avec leur mort, nommément avec les cendres de leur mort. Ce n'est pas un culte domestique, comme ça a pu être dans d'autres sociétés. Ce n'est pas du tout le cas.
Alors, justement, l'enjeu... nous allons en parler, oui. Luce Desaunier. Il y a cette pratique, oui. Maintenant, des cendres. Il y a des personnes qui gardent les cendres chez eux.
Ça va dans le sens de la privatisation du deuil, telle qu'on la voit depuis le milieu du 20e siècle. Et je pense que cette volonté-là de retenir les morts, ça bloque l'universel. Processus de deuil, justement parce que ça empêche d'aménager une distance avec son mort et avec ses morts. Aménager une distance, ça veut dire trouver un lieu pour les morts, parce que d'aller les voir, ça nous permet de nous déplacer, de bouger. Et un lieu pour les morts, c'est aussi fondamental pour une société, parce que, encore une fois, c'est le rappel que la finitude existe. Ce n'est pas en regardant des films américains qu'on va savoir qu'avec 3000 accidents et 3000 explosions, qu'on va savoir que la mort existe. C'est vraiment en allant dans les lieux, en étant sollicité des cinq sens, ça c'est fondamental, que cette réalité-là, elle est trop réelle pour ne pas être acquise par les cinq sens.
Dans la religion chrétienne, oui. Catholique, il y a une prière que l'on fait. On demande au Seigneur, « Seigneur, protège-moi d'une mort brutale, oui. accidentelle. »
Oui, écoutez, c'est d'une sagesse phénoménale, parce que le processus de mourir est quelque chose de toujours très étonnant. On croit savoir ce que c'est, mais c'est extrêmement étonnant dans son rythme, qui est tout à fait imprévisible, et dans ce que ça fait vivre à la personne qui s'approche de sa mort, et ainsi qu'à ses proches. Si on meurt accidentellement, les bourreaux le savent très bien. Ils nous privent de ce qu'on a appelé le travail du trépas, c'est-à-dire voir venir, hein, voir venir la mort et regarder comment on est devant cette mort-là. Et ça nous prive évidemment de l'adieu à nos proches. Si on se fixe uniquement à sa peur, on perd quelque chose de très libérateur, est très lumineux. Cette parole-là de sagesse était une parole qui était une parole associée à la douceur. Parce que quand on dit « bienheureux les doux », c'est tellement vrai maintenant. Et c'est tellement d'autant plus vrai qu'on travaille, on vit dans la brusquerie. Et donc, cette douceur-là, elle est présente. Elle peut être présente dans nos manières d'être les uns avec les autres tout au long de la vie. Elle peut être dans nos coutumes avec l'environnement. Mais tout ça, c'est lié. Si vous avez quelqu'un qui a couru tout le temps de sa vie, il ne voudra pas voir venir sa mort. Ça, c'est tout à fait clair. Donc, il y a comme une cohérence. Et ça, c'est un mot-clé important entre ces manières de vivre les uns avec les autres et les manières de recevoir la mort.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
De se savoir mortel, c'est une extraordinaire chance pour, à rebours, considérer le monde avec des yeux neufs.
Merci.
C'est moi qui vous remercie.